Lisons Matthieu chapitre 3, s'il vous plaît, verset 13. Ah oui, Carmo, voilà, c'est ça, pardon. Voilà ce que j'ai oublié. On a Carmo 3, verset 13. Et avant de lire, on va, si vous voulez bien, on va demander au Seigneur de disposer, qu'on dispose nos cœurs, que le Seigneur nous parle, que vraiment nos âmes s'ouvrent. Alors, il y a plein de pensées qui peuvent être là, des fois dans nos vies, des soucis, des choses qui nous pèsent. On veut faire taire tous ces bruits, on veut chercher le cœur de Dieu, regarder à sa parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as légué ces testaments, non pas pour nous imposer, pour nous accabler, pour faire de nous des gens dominés, écrasés, oppressés, mais ton joug est léger. Et nous voulons, Seigneur, nous rappeler, il est doux, et ton fardeau est léger, Seigneur. Nous voulons nous rappeler que tu veux nous guider dans tes voies. Et ce matin, je te prie de nous parler, au-delà de ce que je peux partager, que vraiment ton esprit soit à l'œuvre. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Nous avons chanté, renouvelle en nous, Seigneur, ce feu. Donne-nous, Seigneur, toujours cette sanctification nécessaire, ce désir d'être purifié et sanctifié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous saluons aussi notre frère Michel Martis, que je pensais tout à l'heure. Je voulais saluer Mijo. On est heureux de vous voir, hein, même si vous êtes au loin là-bas, dans les derniers rangs. Heureux de vous saluer. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Je m'arrête là. Et je vais m'arrêter sur ce verset 1 du chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et surtout sur la notion du désert, le désert. Souvent, j'aimerais nous rappeler que comment est ce désert ? Est-ce qu'il y pousse quelque chose ? Pourquoi dans le désert ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je voudrais donner quelques précisions avant d'entrer dans le sujet. Pour bien comprendre de quel désert parle-t-on. Pas un désert tel le Sahara, où il n'y a aucune végétation, il n'y a que du sable, à perte de vue, et des dunes. Ce n'est pas ces déserts-là qui sont mentionnés dans la parole. C'est en fait des lieux non cultivables, où on ne peut pas faire une quelconque culture, mais il y a quand même de la végétation qui est, je dirais, parsemée, quelques touffes d'herbe parsemées de droite et de gauche. Donc si ce n'était pas un lieu cultivable, c'était une contrée qui pouvait servir de pâturage où les bergers amenaient des fois leurs troupeaux pour manger le peu qu'il y avait et ainsi se déplacer dans ces déserts. Pourquoi des déserts ? Parce que c'est dû à la topographie. Si vous regardez la topographie du pays d'Israël, bon, aujourd'hui, c'est plus les mêmes noms ou les mêmes délimitations, mais vous avez un axe vertical. Vous savez, le Jourdain, le lac de Galilée qui descend, le plus bas, vous avez la mer Morte. Mais d'un côté comme de l'autre, vous avez une chaîne de montagnes. Si vous voulez, là, du côté, alors je le dis parce que j'essaie de raisonner à l'envers par rapport à vous, mais vous avez d'un côté la Méditerranée, donc vous avez une sorte de plat, mais ça commence de suite à monter et une chaîne rocheuse qui descend du nord au sud. Et là, de ce côté-ci, donc les nuages viennent et venant de la Méditerranée amènent l'eau et l'eau vient sur les versants surtout côté ouest. Mais tout ce qui est côté est de cette chaîne de montagne, de l'autre côté du Jourdain, etc. Il y a une autre chaîne de montagne. C'est pas arrosé ou peu arrosé. Toutes les précipitations, comme vous savez, dans certains endroits, quand vous allez en montagne, vous voyez ça, vous avez des flancs de montagne qui sont beaucoup plus stériles que d'autres qui sont beaucoup plus verdoyants. Et là, c'est le même cas. Donc, de côté ouest, vous avez le côté verdoyant, dirons-nous, utile et cultivable. Et puis, de l'autre côté, vous avez le côté un peu plus austère, avec moins de végétation. Et c'est ces côtés-là où il fait mention de désert. Et trop souvent, dans la Bible, on comprend peut-être nous, on est occidentaux, on ne réalise pas toujours ce qu'est ce désert-là, mais ce n'est pas les déserts comme nous, on peut le comprendre, comme on a appris par rapport aux photos du Sahara, qui nous impressionnent bien sûr toujours plus. Donc ces contrées, ces côtés donc est de ces flancs de montagne qui étaient souvent des paliers étaient beaucoup plus étaient utilisés pour donc les pâturages. Et ça, c'est dû à la topographie. Le mot désert, il peut être aussi traduit quand on en parle dans notre langage à nous. Je suis dans le désert. Hein, il y en a, ils le disent. Je suis dans le désert. Je traverse une période de désert. C'est au sens figuré, ça veut dire je me sens délaissé. Je me sens comme peut-être une église peut se sentir dans un temps de désert, comme abandonné du berger, hein, ou spirituellement parlant. Et dans nos vies, moralement, on peut être dans le désert. Spirituellement, on peut être dans un désert. Alors que même on est entouré de personnes, on peut être dans des temps difficiles. Alors j'aimerais donner quelques aspects bibliques concernant ces déserts dans lesquels on peut se trouver. Ici, on voit Jésus qui va dans le désert. Jésus va au désert, peut-être pour être seul, je ne sais pas. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais c'est aussi un endroit où il va être confronté aux ténèbres, confronté à Satan, confronté à, je dirais, cette opposition. Il va être tenté, si vous lisez la suite du chapitre 4, vous lirez chez vous. Et la Bible révèle, et il y a d'autres passages qui révèlent que le lieu du désert, c'est des lieux arides. Et Jésus va parler, par exemple, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. C'est un lieu où peut-être dans ces moments de désertique, je dirais, par la végétation, c'est un lieu aussi où on peut se retrouver seul, dénué un petit peu de beaucoup de choses, et comme oppressé, ou comme dans des situations compliquées. Jésus, en allant dans le désert, ici, on voit bien juste après son baptême, c'est le début de son ministère, on voit que Jésus va dans le désert et va chercher, il va jeûner, certes, il va y avoir un temps où, là, mais c'est comme une confrontation avec les ténèbres. C'est comme s'il venait sur le terrain, dirons-nous, de l'ennemi. C'est comme s'il venait marquer ou dire ou affirmer ou attester qu'il est. Et il vient là, dans ce désert, comme investir le terrain de l'ennemi. Vous comprenez, ce n'est pas un terrain physique, mais comme pour dire, voilà, il est là, il débute son ministère. Et dès le début de son ministère, d'ailleurs, avant sa naissance même, hein, toutes les menaces qu'il y a eu pour pas qu'il arrive à l'existence, mais on sait que Dieu est souverain sur cette affaire. Et il va être tenté, Jésus, dans ce désert, mais il va surmonter les tentations. Il va en ressortir vainqueur. Et ça, ça doit nous encourager à chacun d'entre nous à comprendre. On a chanté « Revêtons l'armure et gagnons le pays ». On a chanté des versets qui nous engagent. Mais c'est pas juste, excusez-moi, des beaux versets, ou des beaux versets, des beaux paroles. C'était pas des versets, c'était des paroles. Hein, mais c'est pas que ça. C'est une réalité. C'est qu'on est rendu capable de résister. J'en parlerai tout à l'heure. La Bible nous dit qu'après ce temps de tentation où Jésus a vraiment résisté, il est écrit, il va répondre par la parole, il va être catégorique, Satan va le laisser. Là, la Bible nous révèle, c'est dans Luc chapitre 4, ne cherchez pas verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus a été poussé par l'Esprit, a été conduit par l'Esprit à aller dans le désert. Il a été là, il a cherché Dieu. Et pendant ces 40 jours où ces temps difficiles, cette opposition est là, il a été vainqueur. Et en réalité, Jésus est celui qui est vainqueur de l'ennemi. Il est le tout-puissant, il est maintenant tout-puissant. Il est le vainqueur sur l'ennemi, oui, il est tout-puissant aujourd'hui, hein, à la droite de Dieu le Père. Et il est vainqueur, il a surmonté les tentations. Il est allé quelque part sur le terrain de l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, je vous cherchais pas, je vais vous le lire, chapitre 16, verset 10. Vous savez, cette pratique, j'en ai parlé un peu jeudi à Gaillac. Il est fait mention, et sur le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. En fait, Dieu avait demandé une chose, c'est qu'il y ait deux boucs qui devaient être pris. Un bouc devait être sacrifié, il était tiré au hasard, hein. Un bouc était sacrifié, le souverain sacrificateur mettait ses mains sur la tête du bouc, bon peut-être avec prudence ou je ne sais pas comment ça a été fait, mais voilà, et on le sacrifiait à Dieu. Et l'autre bouc, c'était le bouc Azazel, pour Azazel. Le mot Azazel est difficile à interpréter ou à traduire, il y a plein de théories, je ne vais pas les développer parce que je pense que ça peut être intéressant si vous voulez étudier, mais ce qui importe le plus, c'est la réflexion qui suit. Et l'autre bouc, le bouc Azazel, le souverain sacrificateur faisait également cette imposition, si vous voulez, de main sur l'animal, ce n'était pas pour la guérison ou autre, c'était pour transférer le péché du peuple sur cet animal-là. Et cet animal-là n'était pas sacrifié. Ce bouc-là, on le chassait dans le désert. On le renvoyait dans le désert. C'est comme s'il y avait ce message indirect, où on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va... il est nécessaire qu'il y ait du sang pour que le pardon soit là. Mais il y a aussi cette nécessité de renvoyer à celui qui est quelque part, excusez-moi le terme, l'auteur de notre péché. On ne veut pas de ce péché-là. On le chasse loin de nous. On ne veut plus ces choses. Et ça nous parle de cette notion de sanctification. En tant qu'enfant de Dieu, on peut accepter le péché dans nos vies et tolérer ce péché, le laisser gangréner. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas ça. C'est de dire renvoie ce bouc Azazel à celui qui t'importune. Renvoie dans le désert tout ce péché. Détache-toi, rejette ces choses. Et vous comprenez d'ailleurs, quelqu'un disait, c'est Alexandre, d'où est l'expression le bouc émissaire. Et c'est tout à fait ça. Hein, l'expression française, c'est un bouc émissaire. Ben oui, le bouc, là, c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire, c'est toi qui dois aller prendre tout le péché et tu l'amènes là-bas et puis on ne veut plus te voir. Laisse-nous tranquille. Hein, pars loin de nous. C'est comme si en faisant cela, pour le souverain sacrificateur, le peuple, c'est comme si en faisant cela, on retournait à l'auteur du péché, dans le cœur de l'homme, ce qu'il a suscité. Hein. C'est comme si on disait, on ne veut rien avoir à faire avec tes manigances, laisse-nous tranquilles, on ne veut plus ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, sanctifiez-vous, que celui qui se sanctifie encore, on a lu. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une part dans notre... Il y a un choix à faire chaque fois en tant que chrétien. Soit j'accepte de laisser le compromis, j'accepte de rester ainsi, soit je cherche vraiment à être sanctifié et je veux lâcher ce bouc Azazel, je veux le renvoyer, je n'accepte pas que ces choses demeurent là. Vous comprenez ça? Donc c'est un lieu de confrontation, le désert. Et des fois, on peut être dans un désert parce qu'il est nécessaire de confronter notre péché, de nous confronter à notre cœur, de nous confronter à nos mobiles, de nous confronter à notre moi aussi, qui veut des fois prendre le dessus, qui veut s'opposer à nous, qui veut parfois dominer, etc. Dans le désert, nous sommes en proie à la tentation, comme Jésus l'a été, à l'oppression spirituelle. Mais comme dans ce rite accompli par Aaron, je le répète et je le répète encore, je désire, plus avoir affaire à ce péché. Et ce péché, je veux le chasser loin de ma vie. Oui, le Seigneur me purifie. Oui, il y a ce bouc qui va mourir. Bien sûr, c'est plus le bouc, mais c'est l'œuvre de Jésus. Mais maintenant, je veux refuser ça. Et si vous êtes tenté d'abandonner dans la marche avec Dieu, mais aujourd'hui, vous avez cet encouragement à dire « Non, je veux résister jusqu'au bout. » Si vous êtes tenté de divorcer, parce que ça ne va plus dans votre mariage, pourquoi faut-il rester ainsi? Pourquoi ces pensées sont là et vous gangrènent? Faudrait-il pas plutôt dire, Seigneur, non, ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que je puisse être relevé dans ta grâce et que notre couple soit relevé. Est-ce que vous êtes tenté de continuer à mentir pour vous en sortir? À faire un peu de, vous savez, mi figue, mi raisin, de demi-mensonge. Demi-mensonge, ça n'existe pas. C'est mensonge ou pas mensonge, hein? Donc déjà, vous avez tout faux si vous dites demi-mensonge. Hein ? Est-ce que vous êtes tenté de continuer à mentir pour vous en sortir ? Si c'est le cas, mettez tout ça sur le bouc Azazel, j'ai envie de dire, et faites-le dégager. Est-ce que vous êtes tenté de quitter l'Église ? Par ceci, parce que cela, parce que... c'est facile de partir, c'est facile de fuir. C'est plus difficile de faire face. Et le désert, voyez-vous, c'est un désert où parfois c'est un lieu de confrontation. Confrontation par rapport à toutes ces choses. Mais la Bible dit, l'épître de Jacques dit, « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. » Alléluia. « Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. » D'accord ? Donc c'est un lieu vraiment de confrontation. Alors bien sûr, ce n'est pas un lieu, je parle là, sur la terre. Des fois, c'est dans notre cheminement personnel que cela se retrouve. C'est également dans le désert, et on posait cette question jeudi soir, je disais, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans le désert? Alors ceux qui étaient là jeudi soir, vous taisez, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans le désert? L'or? Ah, l'eau, pardon. L'eau, bien sûr, mais oui. Hein, je disais, vous pouvez vous promener un lingot d'or dans le désert, c'est pas ça qui va vous sauver. Hein. Si vous n'avez pas d'eau, vous êtes cuit. C'est le cas de le dire. J'ai pas fait exprès. Hein, c'est l'eau. Dans le désert, on se dépouille de tout ce qui n'est pas vital, en fait. Et il est prouvé que les gens qui, malheureusement, sont morts dans le désert à cause de la soif, se sont retrouvés souvent presque dénudés, n'en pouvant plus, se sont dépouillés de tout ce qui était peut-être là, bien sûr, pour, on comprend, pour l'air, hein, pour, le, pour peut-être être moins sous l'effet de la chaleur, je ne sais. Mais souvent, on les retrouvait, on a retrouvé d'ailleurs leurs habits, des cadavres plus loin, presque dénudés. Pourquoi ? Parce qu'on se dépouille. Et cette image-là, on peut la prendre pour notre marche avec Dieu. Dans notre marche avec Dieu, parfois on traverse des moments difficiles, des moments où le désert est là et on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Pourtant tout va bien, peut-être il n'y a pas de choses extérieures ou circonstancielles qui m'accablent, mais dans ces moments-là, il y a quelque chose qui est là, mais vous remarquerez que Dieu nous permet des fois de traverser ces temps-là parce qu'il veut aussi qu'on revienne à l'essentiel. On est dans un confort de vie qui fait que ben, des fois, ce n'est pas chose aisée et de vraiment faire le distinguo des choses. On se laisse facilement envelopper, si facilement par le péché, comme dit la parole d'ailleurs. Hein. Et je dirais, c'est un lieu de dépouillement, le désert. C'est un lieu où je me dépouille de ces pensées qui sont subsidiaires, ces choses qui ne sont pas essentielles. C'est peut-être ces affections de choses qui ont besoin d'être débarrassées. Je disais, si ce lingot, vous avez un lingot d'or dans le désert, ça ne servait pas à grand-chose, hormis si vous croisez une caravane de bédouins, peut-être ils vous donneront un peu d'eau si vous leur donnez le lingot, mais le lingot, il ne sert à rien. Vous savez, ce désert, ce lieu de dépouillement, c'est ce lieu où on recherche que ce qui est vital et précieux. Donc nous dépouillons-nous, parfois, dans ces déserts, comprenons que Dieu permet ces choses pour que nous puissions nous dépouiller de ce qui n'est pas essentiel dans notre vie de foi. Et il y en a des choses qui prennent du temps, hein. C'est pas vrai ? Des choses qui peuvent être là, pas mauvaises, mais qui ne sont pas essentielles. C'est certainement pour cela encore que Dieu va instaurer dans l'Ancien Testament cette fête, la fête du tabernacle, on en parlait en Corinthe vendredi soir, la fête des tabernacles, ou la fête des huttes. C'est cette fête où pendant 7 jours, on envoie, tout le monde doit construire une cabane et aller vivre dans cette cabane. Alors bon, aujourd'hui, ils le font sur la cour, ils le font dans la cour, ils le font sur une terrasse, etc. Mais normalement, il fallait aller dans un endroit un peu isolé et construire une cabane, et toute la famille devait vivre 7 jours-là. Pourquoi ? Ben, ils sortaient de leur confort, de leur habitude, il fallait se mémorer, et ça, vous le trouvez dans Lévitique 23-40, il fallait faire avec les branches et tout ça, tout un tas de cabanes. C'était un souvenir de la pérégrination du peuple pendant ces années de marche dans le désert. C'était ce que Dieu avait institué, Lévitique 23-40, vous prendrez le premier jour du fruit, des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez, bon, il donne la date. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En faisant cela, encore aujourd'hui, ils sortent un petit peu de leur confort. Alors peut-être les gamins, ça les amuse, ils rigolent et tout ça. Mais oui, mais rappelle-toi pourquoi c'est fait. Et vous savez que chez les Juifs, la tradition est très orale et très prononcée. Ils se dépouillent pendant ces jours de tout ce qui n'est pas essentiel. Hein, c'est comme quand vous allez faire du camping, vous avez une belle maison, vous allez faire du camping avec une toile, il fait froid, vous n'avez pas toutes les commodités. Vous vous dépouillez de ce qui est essentiel. Et là, vous commencez à comprendre ce qui est un peu... voilà. Mais ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Ça va, vous êtes avec moi. En faisant cela, ils sortent de leur confort, donc ils se dépouillent de tout ce qui n'est pas essentiel. Donc c'est un lieu de confrontation avec les ténèbres, mais aussi confrontation avec notre moi, notre chair, mais c'est aussi un lieu de dépouillement. Mais ce n'est pas tout. Et on va aller ensemble dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Nous sommes ici juste, si ma mémoire est bonne, avant l'entrée en Canaan. Hein, quelques temps avant l'entrée en Canaan. Ce n'est pas au début de la pérégrination dans le désert, c'est plutôt vers la fin. Ici, Moïse va exprimer ce que Dieu lui demande de dire. Et au chapitre 8, verset 1er, je vais soulever certains aspects, pas beaucoup, hein, mais de ce passage. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. J'ai regardé, ça fait 65 fois qu'il a écrit cette expression. Non, 45 fois, pardon, dans le Deutéronome. Tu te souviendras, tu te souviens, toi, etc. Pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. On retrouve un petit peu cette notion de vraiment de dépouillement pour revenir à ce qui est essentiel. Pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur, et si tu observerais ces commandements, oui ou non, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Amen. Ici, c'est comme s'il y avait un condensé de pourquoi, entre autres, dans qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a des verbes, humilier, t'as été humilié, prouvé, afin de t'apprendre, afin que tu reconnaisses dans ton cœur, etc. Et on voit bien ici qu'il y a une intention. Et Dieu ne permet pas, je dirais, ne nous laisse pas comme ça dans des choses pour dire, ben voilà, tant pis pour eux. Il y a toujours une intention derrière. Dieu a toujours cette capacité à même utiliser des déserts pour se révéler, pour nous parler. Je dirais, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de formation. Dans le désert, on est humilié, on est éprouvé, on est dépouillé. C'est ce qu'ils ont vécu. Hein, et ils ont été confrontés à plusieurs situations douloureuses. Quand on lit l'Exode, les Nombres, le Deutéronome, etc., on s'aperçoit de ces choses-là. Ça a été vraiment un temps douloureux pour eux. Mais toutes ces choses ont été permises par Dieu. Parce qu'il avait l'intention de leur apprendre des choses. Il avait l'intention de leur apprendre beaucoup de choses. Et dans nos vies, les événements que nous vivons ne sont jamais innocents. Même si des fois on dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est vrai tout ça. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça nous échappe. Mais ce qu'on peut dire, et ce qui est certain, c'est que Dieu, lui, n'est pas dépassé, il n'est pas dépourvu. Il n'a pas été surpris. Il sait par quoi il me laisse passer, mais il est avec moi et il m'amène plus loin. Le problème est que dans les moments difficiles, tout un tas de sentiments et de pensées, de tumultes s'opposent au fait d'apprendre de Dieu. Je ne sais pas, quand vous êtes dans des difficultés, dans un temps de désert, je ne sais pas vous, mais moi là-dedans, ça tourne vite. Hein ? Vite, mais ça ne tourne pas vite dans le sens de... trop vite, c'est comme s'il y avait un écran qui empêchait, peut-être Dieu veut me parler, mais ça tourne tellement vite que tu es occupé là, dans ta tête, tu tournes, tu réfléchis, tu dors pas bien, tu te morfonds, et puis à un moment donné, Dieu t'attend, et il dit, bon, bah, il va finir un jour peut-être par s'arrêter pour que je puisse parler. Et Dieu veut nous apprendre. Le problème, c'est que dans les moments difficiles, on s'agite, l'agitation prend de multiples facettes. On peut être des fois tendu, agressif à l'égard de l'autre. On peut être dépressif, on peut être isolé souvent. Et alors on commence à se morfondre dans tout un tas de pensées. Et Dieu de dire, mais je veux te parler. Et comme on est tellement accaparé, approprié, que ben, c'est comme si on ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Heureusement, Dieu est patient. Et Dieu nous aime d'un amour profond. Vous savez, Dieu parlera de cette relation avec son peuple. Je pense souvent à ce passage d'Osée que je vous avais partagé là, avec Omer. Vous savez, là, il y a toute une portée entre Osée, le prophète, et la femme qu'il doit choisir, qui est l'image, bien sûr, du peuple d'Israël, qui va se détourner de son mari, qui va partir et faire tout un tas de choses, prendre d'autres amants. C'est terrible, le livre d'Osée, c'est pas très évident à comprendre, mais c'est un peu cette relation qu'avait Osée avec sa femme. Eh bien, Dieu a une relation d'amour, mais un amour pur, hein, je dirais, avec le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que pour Osée, il ne va pas la rejeter malgré ses égarements. Et dans Osée 2, 14 ou 16, il dira, c'est pourquoi voici... Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Et Dieu dit ça indirectement de cette affaire d'Osée et Gomère. C'est comme s'il disait, mon peuple s'est détourné de moi, il a fait tout un tas de péchés, d'adultères, etc. Il m'a abandonné, mais malgré tout, je ne vais pas la laisser dans ses égarements. Je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est comme si Dieu disait, malgré tout ce qui s'est passé là, je ne vais pas les rejeter, je vais quand même, et en effet c'est ce qui se passe, hein. Dieu ne rejette pas Israël malgré tout ce qui s'est passé, comme Dieu ne rejette pas l'enfant de Dieu qui s'égare, mais il peut revenir et encore aller le rechercher, et nous conduire au désert pour nous parler dans notre cœur. Nos choix, nos décisions parfois dans nos vies peuvent nous détourner ou nous entraîner loin de Dieu, mais rappelons-nous ou apprenons que l'intention de Dieu est de nous parler. Honoré de Balzac a dit « Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. » Et je vais terminer parce que le désert, c'est quand même un endroit où le bruit, où il n'y a pas d'agitation, pas de bruit spéciaux. C'est plutôt très, très calme. Cette agitation, c'est dans le cœur de l'être humain. Et dans le désert, le berger qui recherche sa brebis perdue, et on a un exemple dans Luc 15, il recherche sa brebis perdue, non pas juste en essayant de suivre les traces, parce que je pense que dans le désert, ça va être compliqué, mais il l'appelle. Il l'appelle régulièrement. Et pour moi, je pense que le lieu du désert, c'est le lieu où l'on peut entendre la voix du bon berger. C'est le lieu où la brebis qui s'égare, l'homme et la femme qui connaît et qui a connu la grâce de Dieu, qui, à cause des événements, de circonstances, ça ne me regarde pas, mais on s'est égaré. C'est ce lieu où encore le divin berger Jésus-Christ appelle. Et la Bible dit, et vous savez dans l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus dira « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent ». Il y a des spécialistes de brebis ici, allez les voir. Moi je ne connais pas grand-chose, je connais que les brebis à deux pattes. Hein. Et encore. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Il dira « Mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix ». Et quand nous sommes dans le désert, au lieu de penser, de parler, de s'agiter, peut-être taisons-nous. Si je me tais, on dit des fois, on chante ce cantique, j'entendrai la voix du bon berger. Des fois, il faut se faire taire là, pour entendre la voix de celui qui m'appelle. Et ce matin, peut-être quelqu'un est dans le désert depuis un moment, et vous dites, qu'est-ce que se passe, pourquoi, etc. Fais taire toutes tes pensées. C'est difficile, plus difficile que de laisser s'agiter. Fais taire toutes tes pensées et ose écouter la voix du bon berger. Il t'appelle. Il t'appelle non pas pour te perdre, mais au contraire pour que tu reviennes vers lui. Le divin berger nous parle, nous appelle pour nous faire sortir maintenant de ce désert dans lequel je me suis garé. Et la parole de Dieu, c'est tant d'appels de la part de Dieu à ses enfants. C'est tant d'appels de la part du bon berger pour dire « Viens ». Et c'est pour cela que nous invitons tout le monde à dire « Lisez la parole lisez la parole ». Sonder les Écritures. Pourquoi ? Parce que c'est cette voix qui vient bien au-delà de toutes ces voix de mes pensées, de ce que j'entends, de toutes ces choses qui se médiatisent aujourd'hui. C'est cette voix qui vient du Père Céleste, vous comprenez ? Cette voix qui est dans le cœur de l'homme, qui peut être là entendue. Seulement, il faut savoir se taire parfois. Il faut savoir dire, mais je prends ce temps pour chercher Dieu. Parce que sinon, je vais m'agiter, être malheureux. Que de fois, on a perdu du temps, on a été malheureux parce qu'on est resté sourd à ce que Dieu voulait faire, mais tellement ouvert à tout ce qui se passe devant nous, tellement préoccupé par toutes ces choses, tellement accablé, tellement écrasé, mais béni soit le Seigneur, il continue de parler. Et il veut parler. Et ce matin, si vous êtes dans le désert, je ne vais pas vous tutoyer, si vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas jugé parce que tout le monde a été, et tout le monde est parfois dans le désert, mais alléluia, la voix du bon berger retentit. Alléluia, ils veulent me parler. Fais taire toutes tes préoccupations, cherche Dieu, écoute Dieu. Et alors même que ton découragement est là, alors que même ta crainte, parce que imaginez qu'on est perdu. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé dans un centre de vacances. J'étais en un comité pastoral et des femmes de pasteurs qui étaient là dans ce comité, elles étaient parties se promener. C'était à Joseran. Parties se promener. Et nous, on était habillés. Hein. Puis d'un coup, le responsable, il reçoit un coup de fil et il dit bah, « Qui c'est qui connaît le coin ici ?» J'ai dit « C'est bon, ça va être pour ma pomme, ça n'a pas loupé. » Il y avait des dames, elles s'étaient perdues dans les bois là-bas au fond. Alors, je les prends au téléphone, je dis « Vous êtes où ?» Alors là, je ne vous dis pas. Bon, l'avantage, c'est que, je ne vais pas dire des choses négatives. L'avantage, c'est qu'elles parlaient. Elles étaient nombreuses, elles parlaient ensemble. Donc dans les bois, j'ai couru partout. Parce que je connaissais le coin. Et à la voix, je les ai entendus, je les ai reconnus. Et moi, ils nous ont dit ah, vous êtes notre sauveur. J'ai dit non, vous êtes trompé là. Hein, le sauveur, il est là-haut, c'est pas moi. Mais venez. Bon, j'étais en chemise, tout transpirant, il faisait chaud, etc. Bon, pour dire quoi ? Pour dire que j'ai entendu leur voix. Alors là, c'était des dames qui parlaient là-bas au fond, dans les bois. Vous savez, c'est pas évident. Mais la voix du bon berger, elle est reconnaissable. Elle est reconnaissable. Et des fois, on est un peu perturbé, perdu, égaré. Mais béni soit le Seigneur, sa voix veut retentir dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut nous faire sortir de ce désert. Dans le livre des cantiques, je pensais à ce verset cette nuit, ou je ne sais plus quand. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Cantique chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyé sur son bien-aimé. Bien sûr, là, c'est aussi une image, une typification, ça typifie, pardon, Israël, etc., qui traversait des déserts. Et celui qui monte, qui appuie sur son bien-aimé, c'est Israël aussi, parce que des fois, il faut faire attention de ne pas mettre les choses au mauvais endroit, mais c'est Israël qui monte du désert. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, mes frères et sœurs, le désert, hein, c'est un lieu de confrontation. Et en même temps, c'est un lieu de dépouillement. Et parfois même, souvent, et il y a l'intention, oui, c'est un lieu de formation. Et c'est aussi un lieu où je peux entendre la voix du bon berger. Tu es dans le désert, ne te décourage pas, fais silence, écoute la voix du bon berger. Apprends du Seigneur. Cherche à grandir. Et c'est facile d'écouter que d'un côté. Mais écoute dans ton cœur, écoute dans ton âme, dans ton esprit. Écoute la parole. Écoute ce qu'il a à te dire. Et je veux, et nous voulons, chacun d'entre nous, écouter encore la voix du bon berger. On prie ensemble, que pour nos fronts. Jésus-Christ, que tu es grand, notre Dieu. Que tu es grand. Tu es vraiment le divin berger et tu as donné ta vie pour tes brebis. Alors Seigneur, je sais que quoi que nous traversions comme situation, quoi que soient les difficultés, les épreuves ou les temps de désert que nous pouvons vivre, les temps où on se sent peut-être délaissé, seul, alors qu'on est au milieu de personnes, d'une foule, tu connais toi le cœur de l'homme, tu connais nos vies. Mais ce qui nous réjouit, c'est que nous connaissons aussi la voix du bon berger. Ce qui nous réjouit, c'est que nous savons que tu ne te plais pas à nous laisser dans ces chemins-là, mais tu as une intention d'être, Seigneur, modelé, travaillé, encore renouvelé dans cette communion avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer pour toutes les fois déjà où tu nous as sortis de tant de désert. Toutes les fois où nous étions tentés d'abandonner, tentés de tout lâcher. Et malgré tout, tu nous as donné la force de pouvoir continuer à cheminer. Peut-être même toutes les fois où on s'est détourné de toi et dans le temps, tu es revenu vers nous, tu nous as rappelé à toi. Nous te louons pour ta fidélité. Mais fais-nous grâce pour comprendre ce que tu veux nous dire, pour bien comprendre ce que tu as à nous accorder. Seigneur, nous voulons faire taire toutes ces fois, ces pensées, à ces moments-là, ces agitations, ces troubles, et qui vraiment viennent nous empêcher d'entendre véritablement ta voix. Mais aujourd'hui, nous disons, Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons entendre ta voix, et continuer à cheminer jusqu'au bout, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.